Le verbe lire ne supporte pas l'impératif, aversion qu'il partage avec quelques autres. Le verbe aimer, le verbe rêver. On peut toujours essayer, bien sûr. Aime-moi, rêve, lis, lis, lis donc, bon sang, je t'ordonne de lire. Monte dans ta chambre et lis. Résultat, néant. Il s'est endormi sur son livre. La fenêtre tout à coup lui apparut immensément ouverte sur quelque chose d'enviable. C'est par là qu'il s'est envolé, pour échapper au livre. Mais c'est un sommeil vigilant. Le livre reste ouvert devant lui. Peu que nous ouvrions la porte de sa chambre, nous le trouverons assis à son bureau, sagement occupé à lire. Mais si nous sommes montés à pas de loup, de la surface de son sommeil, il nous aura entendu venir. Alors, ça te plaît? Il ne nous répondra pas non. Ce serait un crime de lèse-majesté. Le livre est sacré. Comment peut-on ne pas aimer lire? Non, il nous dira que les descriptions sont trop longues. Il trouve les descriptions trop longues. Bon, il faut le comprendre. Nous sommes au siècle de l'audiovisuel, évidemment. Les romanciers du 19e siècle avaient tout à décrire. Ce n'est pas une raison pour le laisser sauter la moitié des pages. Oh, ne nous fatiguons pas. Il s'est endormi.
Et le voilà, adolescent, reclus dans sa chambre, devant un livre qu'il ne lit pas. Toutes ses envies d'être ailleurs font, entre lui et les pages ouvertes, un écran glauque qui trouble les lignes. Il est assis devant sa fenêtre, la porte fermée dans son dos. Page 48. Il n'ose compter les heures passées à atteindre cette 48e page. Le bouquin en compte exactement 446. Enfin, autant dire 500.
500 pages!
Et s'il y avait des dialogues encore? Oh, tu parles. 12 pages d'encre noire. Ça manque d'air. Oula, que ça manque d'air. Putain de bordel de merde! Oui, il jure. Désolé, mais il jure. Putain de bordel de merde de bouquin à la con! Page 48. S'il se souvenait au moins du contenu de ces 47 premières pages, il n'ose même pas se poser la question. On lui posera inévitablement. C'est extraordinairement compact, un livre. Hein. Ça ne se laisse pas entamer. Il paraît d'ailleurs que ça brûle difficilement. Même le feu ne peut s'insinuer entre les pages. Manque d'oxygène. C'est épais. C'est un objet contendant, un livre. Page 48 ou 148, ouais, quelle différence, hein. Il revoit les lèvres du prof prononcer le titre. Et il entend la question unanime des copains. « Eh, monsieur, monsieur, combien de pages ?»« 3 ou 400. »« Menteur. »« Et pour quand ?» L'annonce de la date fatidique déclenche un concert de protestation. « 15 jours ?»« 400 pages !»« 500. » À lire en 15 jours, mais on n'y arrivera jamais, monsieur.
Un livre, c'est un objet contendant. Et c'est un bloc d'éternité. C'est la matérialisation de l'ennui. C'est le livre. Le livre. Il s'est assis relativement léger sur sa chaise. La légèreté des résolutions prises. Mais au bout de quelques pages, il s'est senti envahi par cette pesanteur douloureusement familière, le poids du livre, poids de l'ennui, insupportable fardeau de l'effort inabouti. Ses paupières lui annoncent l'imminence du naufrage. L'écueil de la page 48 a ouvert une voie d'eau sous sa ligne de résolution. Le livre l'entraîne. Il sombre.
L'école vint à propos. Elle prit l'avenir en main. Lire, écrire, compter. Alors au début, il mit un réel enthousiasme. Que tous ces bâtons,
Ses boucles, ses ronds et ses petits ponts assemblés finissent fils des lettres. C'est beau. Hein? Maman, par exemple. Maman. Alors, trois petits ponts, un rond, une boucle, trois autres petits ponts, un deuxième rond, une autre boucle et deux derniers petits ponts. Résultat, maman. Comment se remettre de cet émerveillement, hein? Lampe tirée, doigts lourds et poignets soudés, petits ponts, bâtonnets, boucles, ronds et petits ponts, etc. Bref, un bon matin ou un après-midi, les oreilles bourdonnant encore du tumulte de la cantine, il assiste à l'éclosion silencieuse du mot sur la feuille blanche. Là, devant lui, maman. Il l'avait déjà vu au tableau, bien sûr, reconnu plusieurs fois, mais là, sous ses yeux, écrit de ses propres doigts. D'une voix d'abord incertaine, il annonce les deux syllabes séparément. Maman. Et tout à coup, maman ! Ce cri de joie célèbre l'aboutissement du plan du plus gigantesque voyage intellectuel qui se puisse concevoir, une sorte de premier pas sur la lune. Des petits ponts, des boucles, des ronds. Et maman, c'est écrit là, devant ses yeux. Mais c'est en lui que cela éclot. Ce n'est pas une combinaison de syllabes. Ce n'est pas un mot. Ce n'est pas un concept. Ce n'est pas une maman. C'est sa maman. À lui, une transmutation magique, infiniment plus parlante que la plus fidèle des photographies, rien que des petits ronds, pourtant des petits ponts.
Nous ne sommes pas devenus des parents indignes pour autant. Nous ne l'avons pas abandonné à l'école. Nous avons suivi de très très près sa progression, au contraire. Nous avons aidé l'apprenti à faire ses devoirs. Et quand il manifesta les premiers signes d'essoufflement en matière de lecture, nous avons bravement insisté pour qu'il lût sa page quotidienne à voix haute et qu'il en comprît le sens. Pas toujours facile. Alors, qu'est-ce que tu viens de lire, là? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on reprend tout. On reprend depuis le début. Et il reprenait. Depuis le début, chaque mot déformé par le tremblement de ses lèvres. Non, mais ne joue pas la comédie. Nous étions inquiets. D'une inquiétude qui le compara très vite à d'autres enfants de son âge. Et de questionner nos amis, un tel dont la fille marchait très bien à l'école et dévorait les livrets.
Était-il sourd? Dyslexique? Allait-il nous faire un refus scolaire? Accumuler un retard irrécupérable? Consultations diverses, audiogrammes, tout ce qu'il y a de normal, diagnostic rassurant des orthophonistes, sérénité des psychologues. Alors, paresseux? Tout bêtement paresseux? Non. Il allait à son rythme. Voilà tout.
Et maintenant qu'il est grand, là-haut dans sa chambre, il aurait bien besoin d'être réconcilié avec les livres. Maison vide, parents couchés, télévision éteinte, il se retrouve donc seul devant la page 48. Et cette fiche de lecture à rendre demain. Demain? Bref calcul mental, 446 moins 48 est égal 398. 398 pages à s'envoyer dans la nuit.
Bon, il s'y remet bravement, une page poussant l'autre. Les mots du livre dansent entre les oreillettes de son Walkman, sans joie. Les mots ont des pieds de plomb. Ils tombent les uns après les autres, comme ses chevaux qu'on achève. Il poursuit sa lecture, sans se retourner sur le cadavre des mots. Les mots ont rendu leur sens. Paix à leurs lettres. Cette hécatombe ne l'effraie pas. Il lit comme on avance. C'est le devoir qui le pousse. page 62, page 63, il lit. Que lit-il ? L'histoire d'Emma Bovary. L'histoire d'une fille qui avait beaucoup lu. Le mieux est de téléphoner à Thierry ou à Stéphanie pour qu'ils lui passent leur fiche de lecture demain matin, qu'il recopiera vite fait avant d'entrer en cours. Ni vu ni connu, ils lui doivent bien ça.
Ainsi vont nos existences. Lui, dans le trafic des fiches de lecture, nous face au spectre de son redoublement. Le professeur de français en sa matière bafoué. Et que vive le livre ! Les droits imprescriptibles du lecteur.
Le droit de ne pas lire ?
Le droit de sauter des pages.
Le droit de ne pas finir un livre ?
Le droit de relire.
Le droit de lire n'importe quoi ?
Le droit de lire n'importe.
Château-sur-Marne, 1971. L'hiver, casernement de l'école d'application d'artillerie. À la distribution matinale des corvées, le soldat de seconde classe Intel, matricule 146 072 1, bien connu de mon service, se porte systématiquement volontaire pour la corvée la moins courue, la plus ingrate, distribuée le plus souvent à titre de sanction et qui porte atteinte aux honneurs les mieux trempés. La légendaire, l'infamante, l'innommable corvée de Chiotte. Tous les matins, avec le même sourire intérieur. Corvée de Chiotte ! Il fait un pas en avant. Un tel. Avec la gravité ultime qui précède l'assaut, il saisit le balai où pend la serpillière comme s'il s'agissait du fanion de la compagnie et disparaît au grand soulagement de la troupe. C'est un brave. Personne ne le suit. L'armée tout entière reste planquée dans la tranchée des corvées honorables. Les heures passent, on le croit perdu, on l'a presque oublié. On l'oublie. Il reparaît pourtant en fin de matinée, claquant les talons pour le rapport à l'adjudant de compagnie. Latrine impeccable, mon adjudant. L'adjudant récupère serpillière et balai avec aux yeux une interrogation profonde. Il ne formule jamais. Respect humain oblige. Le soldat salue, demi-tour, se retire en portant son secret avec lui.
Le secret pèse un bon poids dans la poche droite de son trier. 1900 pages du volume que la Pléiade consacre aux œuvres complètes de Nicolas Gogol. Un quart d'heure de serpillière contre une matinée de Gogol. Chaque matin, depuis deux mois d'hiver, confortablement assis dans la salle des trônes, bouclé à double tour, le soldat Intel vole très au-dessus des contingences militaires. Tout Gogol, des nostalgiques veillées d'Ukraine aux hilarantes nouvelles pétersbourgeoises, en passant par le terrible Taras Bulba et la noire rigolade des âmes mortes. Sans oublier le théâtre et la correspondance de Gogol, cet incroyable Tartuffe. Car Gogol, c'est Tartuffe qui avait inventé Molière. Ce que le soldat Intel n'aurait jamais compris s'il avait offert cette corvée à d'autres. L'armée aime à célébrer les faits d'armes. De celui-ci, il ne reste que deux alexandrins, gravés très haut dans la fonte d'une chasse d'eau, et qui comptent parmi les plus somptueux de la poésie française. Oui, je peux sans mentir, assis-toi pédagogue, affirmer avoir lu tout mon Gogol au GOG.
De son côté, le vieux Clémenceau, le tigre, un fameux soldat aussi, rendait grâce à une constipation chronique sans laquelle, affirmait-il, il n'aurait jamais eu le bonheur de lire les mémoires de Saint-Simon. Voilà.
Bravo.